Chapitre 12. Trois nous.
Je me plais bien ici. C'est comme si on habitait une cabane dans les arbres.
Selden était assis au pied du divan où elle était allongée. Il tressautait d'un air rêveur en parlant. D'où tirait-il son énergie?
Malta aurait voulu que sa mère vînt et le chassât de la pièce. J'ai toujours pensé que ta place était dans un arbre,
dit Malta d'une voix alanguie pour taquiner son frère.
« Pourquoi ne vas-tu pas jouer ?»
Il la regarda fixement comme un hibou, puis sourit avec circonspection. Il parcourut le salon des yeux, puis se rapprocha d'elle sur le divan. Il s'assit sur son pied, elle grimaça et se dégagea. Tout son corps était encore douloureux.
Selden se pencha très près et chuchota « Malta, fais-moi une promesse !»
Elle se recula. Il avait mangé de la viande épicée.
« Laquelle ?»
Il regarda de nouveau autour de lui.
« Quand tu te marieras avec Rain, est-ce que je pourrai vivre avec vous à Trois-Nous ?»
Elle se garda de lui répondre que son mariage avec Rain était fort improbable.
« Pourquoi ?»
Il se redressa en balançant les jambes.
« Je me plais bien ici. J'ai des amis pour jouer et je vais prendre mes leçons avec des fils rouprousses. J'adore les ponts qui se balancent. Mère a toujours peur que je tombe, mais la plupart ont des filets fixés en dessous. J'aime bien observer les oiseaux de feu qui se baignent dans les bas-fonds du fleuve. »
Il marqua une pause, puis ajouta hardiment.
« Ce qui me plaît aussi, c'est que les gens ne sont pas tout le temps inquiets. »
Il se pencha davantage et reprit.
« Et j'aime la vieille cité. J'y suis allé en douce hier soir, avec Vili, quand tout le monde dormait. Ça donne la chair de poule, j'ai adoré. »
« Tu étais dans la cité quand la terre a tremblé la nuit dernière ?»«
C'était ça le plus formidable »
s'exclama-t-il, les yeux brillants à l'évocation de l'aventure.
« Eh bien, ne recommence pas, et ne le dis pas à maman !»
lui conseilla-t-elle machinalement.
« Tu me prends pour un idiot »
fit-il d'un air supérieur.
« Oui !»
rétorqua-t-elle.
Il eut un sourire hilar. « Je vais aller chercher Vili. Il m'a promis de m'emmener dans un de ces gros bateaux si on peut en chiper un sans se faire remarquer.
Fais attention, le fleuve va le ronger sous vos pieds. »
Il la gratifia d'un regard condescendant.
C'est un mythe. Oh, s'il y avait un tremblement de terre et que l'eau blanchisse, alors elle pourrait ronger vite. Mais Vili dit qu'un gros bateau dure 10 jours, des fois plus, si le fleuve coule normalement. Il dure encore plus longtemps si on les tire au sec la nuit, qu'on les retourne et qu'on fait pipi dessus.
Quoi ? Ça, c'est sûrement un mythe. On t'a raconté ça pour que tu te ridiculises en le répétant.
Non, Vili et moi, on a vu des hommes pisser sur les bateaux avant-hier soir.
Va-t'en, sale gamin.
Et elle tira à elle la courte pointe. Il se leva.
Est-ce que je peux vivre avec vous quand tu seras marié ? Je ne veux plus jamais retourner à Terrilleville.
On verra,
dit-elle avec fermeté. Retourner à Terrilleville ? Elle se demanda s'il existait encore une ville de ce nom. Aucune nouvelle de grand-mère depuis leur arrivée. Et il était peu probable qu'on en reçoive. Les seuls messages que les oiseaux rapportaient et emportaient concernaient la guerre. Le Kendry, qui les avait emmenés sur le fleuve, était la seule vive-nef à faire le voyage. Toutes les autres patrouillaient à l'embouchure du fleuve et autour du port de Terrilleville, cherchant à refouler non seulement les galères chalcédiennes, mais les serpents de mer. Ces derniers temps, les eaux de l'estuaire en étaient infestées. Avec la soudaineté d'un oiseau qui prend son vol, Selden sauta du divan et fila. Malta secoua la tête en le suivant des yeux. Il s'était rétabli si rapidement. Non seulement rétabli, mais plus encore, il était devenu quelqu'un. Était-ce ce que les parents voulaient dire quand ils regrettaient que les enfants grandissent trop vite? Elle se sentait presque sentimentale en songeant à son agaçant petit frère. Elle se demanda avec ironie si cela signifiait qu'elle grandissait, elle aussi. Elle se rallongea sur le divan et referma les yeux. Les fenêtres de la pièce étaient ouvertes, l'air du fleuve pénétrait par l'une et ressortait par l'autre. Elle s'était presque habituée à l'odeur. On gratta légèrement à la porte.
Eh bien, vous avez l'air d'aller beaucoup mieux aujourd'hui.
La guérisseuse était une optimiste chronique.
Merci.
Malta n'ouvrit pas les yeux. La femme ne portait pas de voile. Son visage avait l'aspect granuleux d'un petit pain. La peau de ses mains était aussi rêche que les coussinets sous les pattes de chien. Malta avait la chair de poule quand la femme la touchait.
« Ce dont j'ai surtout besoin, c'est de repos »,
ajouta Malta dans l'espoir qu'on la laisse tranquille.
« Rester allongé sans bouger est en fait ce qu'il y a de plus nocif pour vous. Votre vision est redevenue normale, m'avez-vous dit. Vous ne voyez plus en double ?»«
Ma vision me paraît parfaite », affirma Malta.
« Vous mangez bien et vous digérez bien ?»«
Oui. » »«
Plus de vertige ?»«
Sauf quand je fais des mouvements brusques. » »«
Alors vous devriez vous lever et vous promener. »
La femme s'éclaircit la gorge, un bruit mouillé. Malta réprima un mouvement de recul. La guérisseuse renifla bruyamment, comme si elle reprenait son souffle, puis poursuivit.
« Vous n'avez rien de cassé. Il faut vous secouer et marcher pour faire bouger vos membres. Si on reste trop longtemps couché, le corps oublie. Vous pouvez devenir invalide. »
Une réplique acerbe n'aboutirait qu'à rendre la femme plus insistante.
« On verra cet après-midi, peut-être. »
« Plutôt que cela, je vais envoyer quelqu'un pour vous accompagner. C'est ce dont vous avez besoin pour guérir. J'ai fait mon travail. Maintenant, à vous de faire le vôtre. »«
Merci, »
dit Malta d'une voix distante. La guérisseuse était singulièrement dénuée de compassion pour quelqu'un de sa profession. Malta serait endormie quand l'aide de la guérisseuse arriverait. Elle doutait fort qu'on se risque à la déranger.
C'était le seul avantage que lui avait procuré sa blessure. Elle avait pu enfin dormir sans faire de rêve. À nouveau, elle pouvait s'évader dans le sommeil, elle pouvait oublier la méfiance de Reine à son égard, la captivité ou la mort de son père, jusqu'à l'odeur de Terrilleville en flammes. Elle pouvait oublier que sa famille était indigente, qu'elle-même était le gage d'un marché conclu avant sa naissance. Elle pouvait fuir ses échecs.
Elle écouta le frottement des pas de la guérisseuse qui sortait. Elle se força à dormir, mais sa paix avait été irrémédiablement troublée. D'abord, sa mère était venue, accablée de chagrin et d'inquiétude, tout en se comportant comme si Malta était son unique souci. Puis Selden, puis la guérisseuse, le sommeil avait fui. Elle renonça et ouvrit les yeux. Elle scruta le plafond voûté. Le treillage lui rappelait un panier. Trois nousses ne ressemblaient certes pas à ce qu'elle avait imaginé. Elle s'était figuré une grande demeure en marbre dans une cité aux beaux édifices, aux routes larges. Des chambres ornées de bois sombre et de pierre, de vastes salles de bal et de longues galeries. Mais Selden l'avait exactement décrite. Une ville de cabanes dans les arbres. De petites pièces aériennes, reliées entre elles par des ponts oscillants, se balançaient aux branches d'arbres immenses au bord du fleuve. Tout était construit dans les hauteurs ensoleillées, aussi légèrement que possible. Certaines pièces étaient à peine plus larges que de très grands paniers en osier qui s'agitaient comme des cages à oiseaux au gré du vent. Les enfants dormaient dans des hamacs et s'asseyaient sur des suspentes. On avait exploité toutes les utilisations des joncs et des rameaux. Les fêtes étaient immatérielles, la ville n'était que l'ombre de l'ancienne cité mise au pillage. Quand on descendait dans les profondeurs de Trois-Nousses, l'aspect se modifiait. Du moins, s'il fallait en croire Selden. Malta ne s'était pas aventurée hors de sa chambre depuis qu'elle y avait repris connaissance. Les pièces ensoleillées comme le salon où elle se trouvait étaient perchées au sommet des arbres, tandis que plus bas, les ateliers, les tavernes, les entrepôts et les boutiques baignaient perpétuellement dans une pénombre crépusculaire. Entre les deux, étaient distribuées les pièces plus importantes des maisons des marchands du désert des pluies, les salles à manger, les cuisines et les salles de réunion. Ces dernières étaient construites en planches et en poutres. Kefria lui avait dit que certaines, grandioses, chevauchaient plusieurs arbres et n'avaient rien à envier aux plus somptueuses demeures de Terrilleville. Là était exposée la fortune des marchands, non seulement les trésors de l'ancienne cité, mais toutes les superfluités que leur commerce de produits exotiques leur avait procurées. Kefria avait essayé d'attirer Malta hors de son lit en lui décrivant l'art et la beauté qu'on pouvait y admirer. Sa fille n'avait pas été tentée. puisqu'elle avait tout perdu. Elle n'avait aucun désir de s'extasier devant la fortune d'autrui. Non loin du chenal, trois nous se balançaient et pendillaient au-dessus des berges du fleuve du désert des pluies. Mais le cours d'eau n'avait pas de rive proprement dite. Les marécages, le bourbier et les tourbières mouvantes s'étendaient depuis le fleuve jusque loin sous les arbres. Les eaux corrosives étaient souveraines et coulaient à leur gré. Un lopin de terre ferme pouvait soudain commencer à bouillonner, puis s'enfoncer et disparaître dans la vase. On ne se fiait pas au sol sous les pieds. Les pilotis qu'on y plantait étaient corrodés ou s'écroulaient lentement. Seules les longues racines des arbres paraissaient en mesure d'assurer une certaine stabilité. Malta n'avait jamais vu ni même imaginé d'arbres semblables. La seule fois où elle s'était risquée à jeter un coup d'œil par sa fenêtre, elle n'avait pu apercevoir le sol. Le feuillage et les ponts lui cachaient la vue. Sa chambre était perchée sur une fourche. Une passerelle au-dessus de la branche protégeait l'écorce du piétinement. Deux hommes pouvaient y marcher de front. L'escalier en colimaçon qui descendait le long du tronc rappelait à Malta une rue animée avec ses marchands installés sur les paliers. La nuit, des gardes patrouillaient, veillaient à maintenir allumées les lanternes des escaliers et des ponts. La nuit donnait un air de fête à la cité qui resplendissait de colliers de lumière. Les gens du désert des pluies jardinaient dans des hamacs et des auges de terre suspendues aux arbres. Les fourrageurs disposaient de leurs propres allées dans les ramures et au-dessus des marécages. Ils cueillaient les fruits exotiques, les fleurs, attrapaient les oiseaux de la jungle. L'eau était distribuée par un système tentaculaire de réservoirs pluviaux car on ne pouvait guère espérer vivre longtemps en buvant l'eau du fleuve. Les bateaux à fond épais, creusés dans des troncs d'arbres verts, étaient tirés au sec la nuit et accrochés aux arbres. Ils constituaient le moyen provisoire de transport entre les maisons en complément des ponts oscillants et des voiturettes à poulies qui reliaient les arbres. Ceux-ci soutenaient la cité tout entière. Un tremblement de terre qui faisait bouillonner et béer le sol spongieux ne provoquait qu'un doux balancement des ramures. En bas, il y avait l'ancienne cité, bien sûr, qui, d'après les descriptions de Selden, ne formait guère qu'une bosse dans le marais. La petite surface de terre ferme alentour était dévolue aux ateliers pour le sauvetage et l'exploration de la cité. Personne n'y vivait. Quand elle en avait demandé la raison à Selden, il avait haussé les épaules.
« On devient fou si on passe trop de temps dans la cité. »
Puis, il avait penché la tête et ajouté
« Vili dit que Rain est peut-être déjà fou. Avant qu'il soit amoureux de toi, il passait plus de temps en bas que quiconque avant lui. Il a failli avoir la maladie du fantôme. »
Il avait regardé autour de lui.
« C'est ce qui a tué son père, tu sais. »
avait-il ajouté dans un chuchotement étranglé.
« C'est quoi la maladie du fantôme ? »
avait-elle demandé, intriguée malgré elle.
« Je ne sais pas, pas vraiment. On se noie dans les souvenirs. C'est ce qu'a dit Vili. Qu'est-ce que ça signifie ?»«
J'en sais rien. »
La toute nouvelle propension qu'avait Selden à poser des questions était presque pire que son mutisme de naguère. Elle s'étira sur le divan, puis se blottit à nouveau sous la courte pointe. « La maladie du fantôme. Se noyer dans les souvenirs. » Elle secoua la tête et ferma les yeux. Un nouveau grattement à la porte. Elle ne répondit pas. Elle resta immobile et adopta une respiration lente et profonde. Elle entendit grincer les gonds. Quelqu'un entra dans la chambre, s'approcha du lit et la regarda. Ce quelqu'un se tenait juste au-dessus d'elle et l'observait dans son sommeil simulé. Malta continua à faire semblant de dormir et attendit que l'intrus s'en aille. Mais une main gantée lui effleura le visage. Elle ouvrit vivement les yeux. Un homme voilé se tenait près d'elle, tout de noir vêtu.
« Qui êtes-vous? Que voulez-vous ? »
Elle se recula et agrippa la courte pointe.
« C'est moi, Rain. Il fallait que je vous voie. »
Il eut l'audace de s'asseoir au bord du divan. Elle remonta les pieds pour éviter tout contact avec lui.
« Vous savez que je ne veux pas vous voir. »
« Je sais bien, » admit-il à contre-cœur. « Mais on n'obtient pas toujours ce que l'on veut, n'est-ce pas ?
« Vous aussi, à ce qu'il paraît !»
répondit-elle avec amertume. Il se leva en soupirant. « Je vous l'ai dit. Je vous l'ai écrit dans toutes les lettres que vous m'avez renvoyées. J'étais désespéré ce jour-là. J'aurais raconté n'importe quoi pour que vous veniez avec moi. Néanmoins, je n'ai pas l'intention de faire valoir le contrat de la vive-nef passé entre nos deux familles. Je ne vous prendrai pas comme paiement de la dette, Malta Havre. Je ne vous obtiendrai pas contre votre volonté.
« Pourtant, je suis ici, »
fit-elle remarquer d'un ton mordant.
« Vivante, » ajouta-t-il. « Ce n'est pas grâce aux hommes que vous avez envoyés aux trousses du gouverneur, »
rétorqua-t-elle acide.
« Ils m'ont laissée pour morte. »
« Je ne savais pas que vous étiez dans la voiture. » Il s'excusait d'une voix contrainte.
« Si vous aviez eu suffisamment confiance en moi pour me dire la vérité au bal, je n'aurais pas été dans cette voiture. Ni ma mère, ni ma grand-mère, ni mon frère. Votre manque de confiance a failli nous coûter la vie à tous. Elle a coûté la vie à Davad Restart, qui n'était coupable que de sottise et de cupidité. Si j'avais péri, vous auriez été responsable. Peut-être m'avez-vous sauvé la vie, mais ce n'est qu'après avoir failli me la ravir. »
C'étaient les paroles qu'elle avait tant désiré lui lancer au visage depuis qu'elle avait reconstitué les événements de cette soirée-là. Cette lucidité avait pétrifié son âme. Elle s'était si souvent répété les mots, et pourtant elle n'avait jamais pris la mesure de la profondeur de sa blessure jusqu'à ce qu'elle les eût formulées à voix haute. Elle pouvait à peine les prononcer à cause de la boule qui lui serrait la gorge. Il était silencieux, immobile au-dessus d'elle. Elle scruta les voiles impénétrables et se demanda s'il éprouvait quoi que ce soit. Elle l'entendit reprendre son souffle. Silence. Une respiration entrecoupée. Il ploya lentement les genoux. Elle le regarda, confondue, s'agenouiller sur le sol, près du lit. La voix de Rain était si étranglée qu'elle eut peine à le comprendre. Les mots se bousculèrent.
« Je sais que c'est ma faute. Je le savais durant toutes ces nuits où vous gisiez ici sans bouger. Cette idée m'a rongé comme l'eau du fleuve ronge un arbre mourant. J'ai failli vous tuer. Quand je pensais à vous, gisant là, seul, perdant votre sang, je donnerais n'importe quoi pour réparer. J'ai été stupide et j'ai eu tort. Je n'ai pas le droit de le demander, mais je vous en supplie. « Je vous en supplie, pardonnez-moi, je vous en prie. »
Sa voix se brisa dans un sanglot. Il crispa les poings sous son voile. Elle se couvrit la bouche. Saisie, elle vit les épaules de Rain trembler. Il pleurait. Elle exprima tout haut sa stupéfaction.
« Je n'ai jamais entendu un homme parler de la sorte. Je n'aurais pas cru cela possible. »
En un instant bouleversant, la conception qu'elle avait des hommes se transforma. Elle n'était pas obligée de s'acharner sur Rain, de l'accabler de reproches. Il était capable de reconnaître ses torts.
« Ce n'est pas comme mon père, »
murmura une perfide pensée. Elle refusa de poursuivre cette idée plus avant.
« Malta ? »
Sa voix était étouffée par les pleurs. Il était agenouillé.
Oh, Rain, je vous en prie, levez-vous.
C'était trop embarrassant de le voir dans cette posture.
Mais,
elle s'étonna elle-même.
Je vous pardonne. C'était une erreur.
Elle n'aurait jamais cru que ces mots pussent être si faciles à prononcer. Elle n'avait pas besoin de les retenir. Elle pouvait en rester là. Elle n'avait pas besoin de l'épargner aujourd'hui pour lui asséner plus tard le rappel de sa faute quand elle voudrait obtenir quelque chose de lui. Peut-être n'agirait-il jamais ainsi l'un envers l'autre. Peut-être ne serait-il jamais question dans leur rapport de chercher qui des deux avait tort ou raison. Alors, de quoi s'agirait-il entre eux? Il se remit sur pied en chancelant. Il lui tourna le dos, leva son voile et se passa la manche sur les yeux comme un enfant avant de prendre son mouchoir pour s'essuyer. Elle l'entendit respirer profondément. Tranquillement, elle éprouva sa nouvelle idée.
« Vous ne m'empêcheriez pas de rentrer à Terrilville aujourd'hui si je le voulais ?»
Il haussa les épaules sans se retourner.
« Je n'aurais pas à vous en empêcher. Le Kendry n'appareille pas avant demain soir. »
Sa tentative de plaisanterie fit long feu. Il ajouta d'une voix pitoyable en faisant volte-face.
« Vous pourriez vous en aller alors si vous insistiez. C'est le seul moyen de gagner Terrilville ou ce qu'il en reste. »
Elle s'assit lentement. La question surgit malgré elle. « Avez-vous des nouvelles de Terrilville, de chez moi, de ma grand-mère ?»
Il secoua la tête en s'asseyant à côté d'elle. « Je suis désolé. Non. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux messagers, on les réserve tous aux nouvelles de la guerre. » Il ajouta à contre-cœur. « On raconte beaucoup d'histoires sur le pillage. Les nouveaux marchands se sont soulevés. Certains de leurs esclaves combattent à leur côté. D'autres se sont ralliés aux marchands de Terrilville. C'est voisins contre voisins. La forme de combat la plus horrible, car les adversaires connaissent leurs faiblesses respectives. Dans des batailles de ce genre, il s'en trouve toujours qui ne prennent pas parti, mais qui volent et pillent les plus vulnérables. Votre mère espère que votre grand-mère s'est réfugiée dans sa petite ferme comme elle en avait l'intention. Elle y serait plus en sécurité. Les propriétés des premiers marchands sont...
Arrêtez! Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas y penser. Elle se boucha les oreilles et se recroquevilla en boule, paupières serrées. Il fallait que sa maison existe. Il fallait qu'il y ait quelque part un endroit aux murs solides, une routine rassurante. Elle avait du mal à respirer. Elle se souvenait à peine de sa fuite. Elle souffrait tant de partout. Elle voyait tout en double ou triple. Le cheval la malmenait et Rain la tenait en croupe. Ils avaient galopé trop vite, trop rudement. L'épaisse fumée et les hurlements au loin et les cris. Certaines routes étaient bloquées par des décombres de bâtiments brûlés. Les quais du port n'étaient que débris charbonneux et fumants. Rain avait déniché un canot qui faisait haut. Seldon l'avait tenue droite pour qu'elle ne tombe pas dans l'eau de cale croupie, tandis que Rain et Kefria avaient manœuvré les avirons vermoulus pour les amener jusqu'au Kendry. Elle se retrouva sur les genoux de Rain, toujours en boule. Assis sur le lit, il la tenait et la berçait en lui tapotant doucement le dos. Il avait placé la tête de Malta sous son menton.
« Chut, chut, c'est passé, c'est fini, » répétait-il. Son foyer avait disparu. Les bras forts autour d'elle étaient son seul refuge, mais ses paroles étaient trop vraies pour la réconforter. C'était passé, c'était fini, c'était détruit. Trop tard pour d'autres efforts, trop tard même pour pleurer, trop tard pour tout. Elle se blottit davantage et l'enlaça. Elle le tint serré contre elle.
Je ne veux plus penser. Je ne veux plus parler.
Moi non plus.
La tête de Malta était sur sa poitrine. Les mots résonnèrent profondément à l'intérieur de lui. Elle renifla, poussa un lourd soupir. Elle faillit s'essuyer les yeux à sa manche, puis se ravisa. Elle chercha à tâtons son mouchoir. Il lui donna le sien, encore tout humide de ses larmes à lui. Elle s'essuya les yeux.
« Où est ma mère ? »
demanda-t-elle avec lassitude.
« Avec la mienne et quelques membres de notre conseil. Ils sont en train de discuter de ce qui peut être fait. »«
Ma mère ? » ?»«
La marchande Vestrit des marchands de Terrilville a droit à la parole comme les autres marchands. Et elle a des idées lumineuses. Elle a proposé qu'on utilise des seaux épais de bois vert remplis d'eau du fleuve comme armes contre les galères. On les charge sur des catapultes pour qu'ils éclatent sur leurs ponts. Les dégâts ne seront peut-être pas instantanés, mais avec le temps, leurs navires vont commencer à s'abîmer, à se disloquer, sans parler des brûlures infligées aux galériens.
« À moins qu'ils sachent qu'il faut pisser sur les ponts, » marmonna-t-elle.
Rain éclata de rire malgré lui. Il resserra son étreinte. « Malta Vestrit, vous m'étonnerez toujours. » Comment avez-vous appris ce secret ?
C'est Seldon qui me l'a dit. Les enfants espionnent tout.
C'est vrai, répondit-il pensivement. Les enfants et les serviteurs sont presque invisibles. La plupart de nos informations avant les émeutes provenaient du réseau d'esclaves d'Ambre. Elle appuya sa tête sur l'épaule de Reine. Il l'entoura de ses bras et la tint contre lui. Ce n'était pas romanesque. Plus de romanesque désormais. Il n'y avait que la lassitude.
Ambre ? La fabricante de perles ? Demanda-t-elle. Mais qu'a-t-elle à voir avec les esclaves ?
Elle leur parlait, beaucoup. Je devine qu'elle devait se grimer, se déguiser en esclave et traîner près des puits, des fontaines et des endroits où ils se rassemblaient pour faire leur travail. D'abord, elle a recueilli des informations en écoutant leur bavardage, puis elle a fini par en enrôler certains pour l'aider. Elle a ouvert son réseau à la famille Ténira. Grag et son père en ont fait bon usage.
« Quel genre d'informations ? »
demanda-t-elle d'une voix morne. Pourquoi s'en souciait-elle ? Tout revenait à une seule chose, la guerre. Des gens qui s'entretuent, qui détruisent. Les derniers ragots de Jamelia. Qui sont les alliés de qui a des intérêts considérables en Calcède ? C'était des informations dont nous avions besoin pour plaider notre cause à Jamelia. Nous ne sommes pas des rebelles, enfin, pas vraiment. Nous agissons dans l'intérêt du gouvernorat. Il y a un groupe de nobles jaméliens qui voudraient renverser le gouverneur et s'emparer du pouvoir. Ils l'ont encouragé à venir à Terrilville en espérant qu'il se passerait exactement ce qui s'est passé. Des émeutes. Des tentatives d'assassinat sur la personne du gouverneur. Il admit, presque malgré lui, le marchand Restart n'était pas un traître. Sa façon de s'imposer quand la flotte calcédienne est arrivée a fait avorter les plans des traîtres, car le gouverneur s'est retrouvé chez Restart au lieu de tomber entre leurs mains. Mais, s'il ne s'était pas interposé, l'attaque de Terrilville aurait commencé beaucoup plus tôt.
« En quoi est-ce important ? »
demanda-t-elle d'une voix abattue. « C'est une situation compliquée. En fait, il s'agit d'une guerre civile jamélienne, pas de la nôtre. Ils ont simplement décidé de la mener sur notre territoire. » Certains nobles jaméliens sont disposés à céder Terrilville aux Calcédiens en échange de traités commerciaux juteux d'un bon morceau de ce que le gouverneur s'est déjà approprié. Ils veulent aussi acquérir plus de pouvoir à Jamelia. Ils ont poussé les choses très loin. Ils sont allés jusqu'à établir leur famille et leurs concessions à Terrilville. Maintenant, ils font croire que ce sont les marchands de Terrilville qui se sont rebellés contre le gouvernorat. Mais ce n'est qu'un leurre destiné à dissimuler leur propre complot pour renverser un gouverneur incapable et s'emparer du pouvoir. Vous comprenez ?
Non. Et cela m'est égal. Reine, je veux seulement le retour de mon père. Je veux rentrer chez moi. Je veux que tout redevienne comme avant.
Il baissa la tête et posa le front sur l'épaule de Malta. Un jour, dit-il d'une voix étouffée, vous voudrez quelque chose que je pourrais vous donner. Du moins, je prie ça que ce jour arrive. Durant un moment, ils restèrent ainsi l'un près de l'autre, en silence. On entendit un grattement à la porte. Reine sursauta, mais il ne pouvait guère lâcher brutalement Malta. La porte s'ouvrit, et la femme du désert des pluies qui apparut sur le seuil eut l'air absolument scandalisée. Elle en demeura bouche bée. Elle avala de l'air, puis lâcha.
Je suis venu aider Malta Vestrit. La guérisseuse lui a conseillé de se lever et de marcher un peu.
J'y veillerai moi-même, déclara Reine calmement, comme s'il avait parfaitement le droit d'être seul avec elle dans sa chambre et de la tenir dans ses bras. Malta baissa les yeux sur ses mains croisées au creux des genoux. Elle ne put maîtriser la rougeur qui lui brûla les joues.
« C'est-à-dire ?»«
Vous pouvez assurer la guérisseuse que j'y veillerai, » ordonna-t-il avec fermeté. Alors que la femme sortait précipitamment en laissant la porte entrouverte, il ajouta tout bas. « Et à ma mère, et à mon frère, et vous pourrez cancaner avec tous ceux que vous rencontrerez en chemin. » Il secoua la tête et l'étoffe de son voile susurra contre les cheveux de Malta. Je n'ai pas fini d'en entendre parler pendant des heures. »
Il resserra brièvement son étreinte, puis la lâcha. « Venez. Puisque je suis déjà un fourbe, ne me faites pas passer pour un menteur. Levez-vous et venez marcher avec moi. »
Il la souleva. Elle lui tendit la courte pointe. Elle portait une robe d'intérieur qui, quoique assez pudique, ne convenait guère à une jeune dame en promenade. Elle porta une main à ses cheveux. En les repoussant de son front, elle effleura sa cicatrice. Elle grimaça. « Cela vous fait encore mal ?» demanda aussitôt Rain.
« Pas très, mais cela me surprend toujours. Je dois être affreuse à voir. Je ne me suis pas coiffée aujourd'hui. Rain, on ne veut pas me donner de miroir. C'est très laid ?»
Il pencha la tête pour la scruter.
« Vous diriez oui, moi je ne trouve pas. C'est pâle maintenant et enflé, mais ça va s'effacer avec le temps. »
Il secoua sa tête voilée.
« Ce qui ne s'effacera jamais de ma mémoire, en revanche, c'est que c'est moi qui l'ai... »«
Rain, non !»
implora-t-elle.
Il prit une inspiration. « Vous n'êtes pas affreuse à voir. Vous avez l'air d'un chaton ébouriffé. »
De sa main gantée, il cueillit une dernière larme sur son visage. Elle se dirigea d'un pas raide vers une petite table où étaient disposés ses objets de toilette. La brosse lui était inconnue. Sans doute la famille de Rain la lui avait-elle fournie comme la chambre dans laquelle elle dormait et le pain qu'elle mangeait et les vêtements qu'elle portait. Sa famille était arrivée de Terrilleville sans rien. Rien. Il vivait de charité depuis lors.
« Permettez-moi, » supplia Rain.
Il lui prit la brosse des mains. Elle regarda par la fenêtre pendant qu'il la coiffait avec douceur.
« Vos cheveux sont si épais, comme des écheveaux de soie lourde et si noirs. Comment faites-vous ?
Ma mère se plaignait toujours de mes cheveux quand j'étais petit. Pourtant, les cheveux raides doivent être plus difficiles à coiffer que des boucles, non ?»«
Vous avez les cheveux bouclés ?»
demanda Malta songeuse.
« Comme un mouton, dirait ma sœur aînée. Quand Ilamon me peignait, elle m'en arrachait autant qu'elle m'en laissait sur la tête, parole d'honneur. »
Elle se tourna brusquement vers lui.
« Laissez-moi vous voir. »
Il mit un genou en terre devant elle, la brosse à la main.
« Malta Vestrit, voulez-vous m'épouser ?»
Stupéfaite, elle répondit. « Ai-je le choix ?»«
Bien sûr. »
Il ne bougea pas. Elle inspira.
« Je ne peux pas, Rain, pas encore. »
Il se releva avec grâce. Il la prit par les épaules et la fit pivoter. Il reprit son brossage. Si elle l'avait blessé, sa voix ne le trahissait pas.
« Alors vous ne pouvez pas voir mon visage. »
« C'est une coutume du désert des pluies ?»«
Non. »
« C'est une coutume de Rain Ruprus concernant Malta Vestrit. » »«
Vous pourrez me voir quand vous me direz que vous voulez bien m'épouser. »«
C'est ridicule !» protesta-t-elle.
« Non. C'est fou. » »«
Demandez à ma mère ou à mon frère. Ils vous diront que je suis fou. » »«
Trop tard. C'est entre autres ce que j'ai appris de mon petit frère. » Rain Ruprus est devenu fou pour avoir passé trop de temps dans la cité. Vous vous êtes noyé dans les souvenirs. »
Elle avait parlé avec légèreté pour plaisanter. Quelle ne fut pas sa stupéfaction quand il lâcha la brosse et s'immobilisa. Au bout d'un moment, il demanda d'une voix étouffée par l'horreur.
« On dit vraiment cela de moi ?»«
Rain, je plaisantais. »
Elle se tourna pour lui faire face, mais... il s'écarta vivement d'elle pour regarder par la fenêtre.
« Noyé dans les souvenirs.
Vous ne pouvez pas avoir inventé cela, Malta Vestrit. C'est une phrase du peuple du désert des pluies.
On dit vraiment ça de moi, n'est-ce pas ?»«
Des bavardages de petits gamins. Vous savez bien que les enfants se racontent des histoires pour s'impressionner mutuellement, qu'ils exagèrent. »
« Et qu'ils répètent ce que disent les adultes. » acheva-t-il d'un ton morne.
« Je croyais que c'était seulement... C'est si grave que ça, de se noyer dans les souvenirs ?
Oui, confia-t-il morose. Oui, c'est grave. Quand vous devenez dangereux, on vous donne un poison très doux. Vous mourrez dans votre sommeil, si vous êtes encore capable de dormir. Parfois, il m'arrive de dormir. Pas souvent et pas longtemps, mais le vrai sommeil n'en est que plus délicieux.
Le dragon,
dit Malta doucement.
Il sursauta comme s'il avait reçu un coup de poignard et se tourna pour la dévisager. De notre rêve, poursuivit-elle à voix basse, comme cela paraît lointain.
Il m'a menacé de s'en prendre à vous, mais j'ai cru qu'il s'agissait d'une de ses forfanteries.
Il semblait malade.
Malta allait lui raconter comment le dragon l'avait tourmenté, mais elle se ravisa.
Il ne m'a pas plus importuné depuis que j'ai été blessée. Il a disparu.
Il garda un moment le silence. Je suppose qu'il a perdu le contact avec vous quand vous étiez inconsciente.
Cela peut arriver ?
Je n'en sais rien. J'en sais fort peu sur lui.
Sauf que personne ne croit en son existence. Ils pensent tous que je suis fou.
Il eut un rire chevrotant.
Elle lui tendit la main. Venez, allons nous promener. Vous m'avez promis une fois de me montrer votre cité.
Il secoua lentement la tête. Je ne suis pas censé y aller dorénavant. À moins que ma mère ou mon frère ne le juge nécessaire. J'ai juré.
Sa voix trahissait un profond chagrin. Pourquoi ? Mais pour quelle raison ?
Il étouffa un petit rire. Pour vous, ma chère, je vous ai sacrifié ma cité. Ils m'ont promis que si je n'y allais pas, sauf avec leur autorisation, que si je renonçais à tout espoir de délivrer le dragon, ils oublieraient la dette de la vive nef, m'allouerait une rente que je pourrais dépenser à ma guise et me permettrait de vous rendre visite quand je voudrais. Si elle n'avait pas partagé de rêve avec lui, elle n'aurait pas compris à quoi il avait renoncé. Mais elle savait. La cité était son cœur. Sonder ses secrets, parcourir ses rues bruissant de murmures, forcer ses mystères à se dévoiler, c'était son âme. Pour elle, il avait renoncé au noyau de son être.
Et il poursuivit à mi-voix.
Alors vous voyez, le pacte est déjà scellé. Vous n'êtes pas obligé de m'épouser pour acquitter la dette. Il tordait désespérément ses mains gantées.
« Et le dragon ?»
demanda Malta le souffle court. « Il me hait maintenant. S'il peut me noyer dans ses souvenirs, il le fera, j'imagine. Il essaie de me faire venir, mais je résiste.
Comment ?»
Il soupira. Avec une pointe d'humour, il ajouta « Quand c'est vraiment dur, je m'enivre jusqu'à ne plus pouvoir ramper. » Et puis je perds conscience.
Oh, Rain !
Elle secoua la tête saisie de compassion.
Alors, le dragon n'avait plus que lui ?
Conclut Malta.
Pour le tourmenter comme il voulait dans son monde, sans espoir de fuite ? Elle prit une inspiration. Et si je vous épousais pour remplir le contrat ? Si je disais que je préfère acquitter la dette de cette façon plutôt que d'en accepter l'annulation, cela vous libérerait-il de votre marché ?
Il secoua lentement la tête. Cela ne me libérerait pas du pacte. Il pencha la tête vers elle. Vous feriez ça vraiment ?
Elle n'en savait rien. Elle ne pouvait décider. Il avait conclu un terrible marché seulement pour être avec elle. Mais elle ne pouvait encore se résoudre à dire qu'elle désirait l'épouser. Elle savait si peu de choses de lui. Comment avait-il pu douter d'elle et pourtant lui sacrifier sa cité ? C'était incompréhensible.
Les hommes n'étaient pas du tout ce qu'elle croyait.
« Emmenez-moi me promener !»
Sans un mot, il prit la main qu'elle lui tendait. Il la fit sortir de la chambre et ils allèrent flâner sur la passerelle qui montait en spirale le long du tronc de l'arbre immense. Il se tenait par la main et elle ne regarda ni en bas ni en arrière.
Je ne vois pas quel intérêt nous aurions à le garder ici. On croirait qu'on l'a enlevé.
Le maigre marchand du désert des pluies se rejeta en arrière dans son fauteuil d'un air irrité.
Marchand Polsk, vous êtes borné. L'intérêt est évident. Si nous avons le gouverneur, il peut parler en notre faveur. Il peut dire qu'il n'a pas été enlevé, mais qu'il a échappé grâce à nous au complot d'assassinat ourdi par les nouveaux marchands.
La marchande Frey, qui apostrophait si vertement le marchand Polsk, était assise à côté de lui. Kefria en conclut qu'ils étaient amis ou parents.
L'avons-nous réellement convaincu que c'est la vérité? La dernière fois que je l'ai entendu parler, il avait plutôt l'air de penser qu'on l'avait arraché à une aimable hospitalité et fait disparaître comme par enchantement. Il n'a pas employé le mot « enlèvement », mais il l'avait sur le bout de la langue, répondit le marchand Polsk.
Nous devrions l'installer dans d'autres appartements. Il ne peut manquer de se sentir prisonnier, retenu dans cet endroit.
Ceci provenait du marchand Kevin. Son voile, littéralement constellé de perles, cliquetait au souffle de ses paroles.
C'est là qu'il est le plus en sécurité. Nous en sommes tous convenus, il y a des heures. Je vous en prie, marchand, ne revenons pas sur nos brisées. Nous devons laisser de côté la raison de sa présence ici et son lieu de détention, et aborder la question de nos intentions le concernant.
Yanni Rouprousse semblait à la fois lasse et agacée. Kefria la comprenait fort bien. Par moments, elle regardait autour d'elle et se demandait ce qu'était devenue sa vie. Elle était là, assise dans un grand fauteuil à une table imposante, flanquée par les marchands les plus puissants du désert des pluies. Leur discussion n'était ni plus ni moins que des propos séditieux contre le gouvernorat de Jamelia. Pourtant, ce qui l'entourait lui paraissait moins étrange que ce qu'elle avait perdu. Tout. Son mari, son fils, sa mère, sa fortune, son foyer, tout avait disparu de son existence. Elle considéra les faces voilées en se demandant pourquoi il la tolérait parmi eux. Quelle contribution pouvait-elle apporter au conseil? Elle prit néanmoins la parole.
La marchande Rouprousse a raison. Plus tôt nous agirons, plus nous sauverons de vies. Nous devons informer Jamelia qu'il est sain et sauf. Nous devons faire valoir que nous ne lui voulons aucun mal et que nous ne le retenons que pour sa propre sécurité. En outre, je crois qu'il faut séparer ce message de toute autre négociation. Si nous mentionnons les octrois de terre ou l'esclavage ou les taxes dans la même missive, ils vont en conclure que nous échangeons l'avis du gouverneur contre la satisfaction de nos exigences.
Et pourquoi pas ?
La marchande Lorek prit soudain la parole d'une voix forte. C'était une femme imposante. Un poing musclé claqua sur la table.
Répondez-moi d'abord là-dessus. Pourquoi retenons-nous cet adolescent gâté dans un bel appartement qu'il transforme en porcherie? Pourquoi le nourrissons-nous de mets et de vin fin alors qu'il nous considère comme des gens repoussants et sans honneur? Moi je dis, amenons-le ici, qu'il nous regarde en face. Trempons-le une ou deux fois dans le fleuve du désert des pluies. Mettons-le au travail pendant un mois, qu'il se fatigue un peu, et on verra s'il ne commence pas à nous respecter davantage. Ensuite, échangeons-le contre tout ce que nous voulons obtenir.
Cette sortie véhémente fut suivie d'un silence. Enfin, le marchand Kevin répondit aux suggestions de Kefria.
La plupart des membres du conseil semblaient ignorer les petits éclats de la marchande Lorek, remarqua-t-elle.
À qui devons-nous adresser ce message? La compagne Série suspecte que la conspiration s'étend à de nombreuses familles nobles de Jamelia. Ils peuvent être irrités que nous ayons sauvé la vie du gouverneur. Avant de nous vanter d'avoir évité le complot, peut-être serait-il bon de découvrir qui est derrière.
Le marchand Polsk se radossa à son siège.
Permettez à un vieux borné de réduire l'affaire à l'essentiel. Débarrassez-vous de lui. Renvoyez le gosse d'où il vient. Qu'il se débrouille avec lui. Ils peuvent bien l'assassiner là-bas s'ils y tiennent tant que ça. Et s'entretuer comme bon leur semble, je m'en moque complètement. Accrochez-lui un mot autour du cou, qui qui les informera qu'on en a soupé de lui et soupé de Jamélia et que désormais nous allons agir à notre guise. Pendant que nous y sommes, nettoyons nos baies et nos chenaux des Chalcédiens et ne lâchons pas cette fois. »
Quelques marchands hochèrent la tête, mais Yaniroupru soupira.
« Marchand Polsk, en effet, vous allez droit à l'essentiel. Beaucoup parmi nous souhaiteraient que les choses soient aussi simples. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons risquer d'entrer en guerre avec Chalcède et Jamélia en même temps. Si nous devons nous concilier un des adversaires, que ce soit Jamélia. »
Le marchand Kevin secoua la tête avec véhémence.
« Ne concluons aucune alliance tant que nous ne saurons pas qui soutient qui. Il faut apprendre ce qui se passe à Jamélia. Malheureusement, nous devons rendre le séjour du gouverneur plus confortable et le garder pendant que nous envoyons nos délégués à Jamélia, sous pavillon de trêve, pour se renseigner sur ce qu'il advint là-bas. »
« Vont-ils respecter un pavillon de trêve ?»
demanda quelqu'un, interrompu par un autre marchand.
« Passez devant les pirates et les mercenaires chalcédiens et retour. Vous savez combien de temps ça prendra, ce voyage? Il se peut fort bien qu'il ne reste plus rien de Terrilville d'ici là. »
Peut-être fût-ce parce qu'on avait mentionné sa patrie. En tout cas, la situation parut subitement à Kefria d'une limpidité de glace. Elle comprit quelle était sa contribution à cette réunion. C'était celle que ses ancêtres avaient apportée quand ils avaient débarqué sur les rivages maudits pour s'établir, à la force du poignet, dans un territoire hostile. Elle avait son courage et son intelligence. C'est tout ce qui lui restait à proposer.
« Nous n'avons pas besoin d'aller à Jamélia pour nous renseigner, » dit-elle à mi-voix.
Toutes les têtes voilées se tournèrent brusquement vers elle.
« Les réponses qui nous sont nécessaires se trouvent à Terrilville. Il y a des traîtres là-bas qui étaient prêts à laisser assassiner un enfant pour s'emparer de nos terres et les transformer à la manière chalcédienne. Marchand, nous n'avons pas besoin d'aller à Jamélia pour découvrir qui sont nos amis. Il suffit d'aller à Terrilville pour découvrir qui sont nos ennemis, à la fois là-bas et à Jamélia. »
La marchande Lorek frappa à nouveau sur la table.
« Et comment allons-nous procéder, marchand de Vestrit? On va leur demander gentiment. Suggérez-vous qu'on fasse des prisonniers et qu'on leur extorque ces informations ?»«
Ni l'un ni l'autre, » répondit tranquillement Kefria. Elle regarda autour de la table les faces voilées. À en juger par leur silence recueilli, ils paraissaient écouter. Elle prit une inspiration.
« Je pourrais m'enfuir là-bas et me mettre de leur côté ? Regardez-moi. Les pirates ont pris mon mari chalcédien. J'ai été enlevée de chez moi, ma fille et mon fils ont été tués lors de l'enlèvement du gouverneur, sans parler de mon vieil ami Davad Restart. Je pourrais les persuader que je suis de leur bord. Et d'une façon ou d'une autre, je m'arrangerai pour vous informer de ce que je découvre. »
« Trop dangereux !»
décréta aussitôt le marchand Polsk.
« Ce que vous avez à leur proposer n'est pas suffisant, »
dit la marchande Frey à mi-voix.
« Il faudrait une vraie monnaie d'échange, des renseignements sur nous ou sur le fleuve, quelque chose. »
Kefria réfléchit un moment. « Un billet du gouverneur, écrit de sa main, disant qu'il est en vie et qu'il implore l'aide de ses nobles. » « Je pourrais proposer de le trahir. »«
Ce n'est pas assez. »
Frey secoua la tête. Kefria eut une inspiration.
« Ma vive nef, » dit-elle tranquillement, « je pourrais leur proposer un marché, leur demander de sauver mon navire et mon mari. En échange, j'utiliserai la vivacia pour les amener sur le fleuve où ils pourront vous attaquer et reprendre le gouverneur. »
« Ça pourrait marcher, » approuva à contre-cœur Yaniroupru. « Ils vous soupçonneront si vous venez simplement les gratifier d'une trahison, mais si vous leur demandez un service, si vous cherchez à conclure un marché, ils admettront vos mobiles. »«
La ficelle est trop grosse, »
grommela Polsk.
« Et si quelqu'un a parlé à votre mère ?» « Comment vous seriez-vous procuré cette lettre du gouverneur? Tout le monde sait que Malta est fiancée à Reine. Ils ne croiront pas à votre soudaine animosité. »
« Ma mère a fui la ville le même jour que moi, je pense. et je n'ai parlé à personne après le bal. Nous avons tout simplement disparu. Je pourrais dire que nous avons été enlevés avec le gouverneur, que mes enfants sont morts de leurs blessures, mais que j'ai été retenue prisonnière avec lui. J'ai gagné sa confiance, il a écrit la lettre, je me suis évadée, mais j'ai décidé de le trahir parce que je le rends responsable de tout. »
Kefria s'interrompit à court d'imagination.
À quoi pensait-elle donc?
La trame était ourdie trop lâche. Le premier imbécile venu la percerait à jour.
Les autres marchands allaient s'en apercevoir à leur tour et la dissuaderaient de partir.
Elle savait elle-même qu'elle ne serait pas capable de mener l'affaire à bien.
Sa sœur Althea aurait pu, même sa fille Malta possédait l'intelligence et le courage nécessaires, mais elle n'était qu'une discrète petite souris, surprotégée et naïve. Tout le monde voyait comme elle était. On ne la laisserait jamais faire.
Elle se sentait tout à coup ridicule d'avoir même suggéré un plan aussi pitoyable.
Le marchand Polsk fit courir ses doigts maigres sur la table.
« Très bien, vous avez raison. Néanmoins, j'insiste pour que la marchande Vestrit prenne une nuit pour réfléchir avant de s'engager. Elle a subi de dures épreuves. Ses enfants seront en sécurité ici, mais nous l'exposons à un grand danger sans guère lui fournir d'expédient. »
« Le Kendry appareille demain. Pourrait-elle être prête d'ici là ?»
intervint la marchande Lorek.
« Nous avons encore des liens avec des esclaves dans certaines maisons de nouveaux marchands. Ils pourraient nous transmettre des informations. Je vais vous dresser une liste de noms qu'il faudra retenir. »
proposa la marchande Frey. D'un coup d'œil, elle fit le tour de la table.
« Il va sans dire, naturellement, que ce plan ne doit pas quitter cette salle. »«
Naturellement, je n'en parlerai qu'au capitaine du Kendry. Je lui ferai comprendre à demi-mot qu'il aura peut-être une passagère clandestine à bord de son navire, qu'il ne devra pas déloger. Il peut la cacher à son équipage. »
« Vous aurez besoin de provisions, mais nous ne pouvons pas vous équiper parfaitement, sans quoi votre histoire sonnerait faux, » dit Annie d'un ton soucieux.
« Nous devrions lui préparer un bracelet, en or, recouvert d'émail pour qu'il paraisse sans valeur. Si elle est menacée, elle pourra peut-être racheter sa vie, »
ajouta Frey. Kefria écoutait tandis que le plan qu'elle avait proposé prenait forme autour d'elle. Était-elle le poisson pris au filet ou le pêcheur? Si la peur qu'elle ressentait lui était familière, inconnue en revanche était l'exaltation qui la soulevait. Qu'était-elle en train de devenir?
J'insiste pour que nous lui laissions au moins une nuit pour bien y réfléchir, répéta Polsk.
Je partirai avec le Kendry, assura Kefria tranquillement. Je vous confie mes enfants. Je leur expliquerai que je retourne à Terrilville pour convaincre leur grand-mère de nous rejoindre ici. Je vous supplie de ne pas leur en révéler plus. »
Les têtes voilées autour de la table acquiescèrent. Yannirouprous dit à mi-voix
« Je prie seulement pour que nous tenions encore le port de Terrilville quand vous arriverez là-bas. Autrement, ce sera l'échec de notre plan. »
C'était une nuit noire et argent. Peut-être était-elle belle cette nuit dans son genre. Mais Malta n'avait pas de temps à perdre à contempler la beauté dans sa vie. C'était fini désormais. La lune qui brillait là-haut, le bruit du fleuve redoutable en bas, et entre les deux le brouillard flottant, la brise légère, il fallait faire comme si tout cela n'existait pas, tout en se concentrant sur le doux balancement du pont sous ses pieds. C'était à vous soulever le cœur. Il y avait bien un garde-corps en corde, mais il avait du mou et il était fixé tout au bord de la passerelle. Elle préférait rester au milieu de la travée. Elle avançait avec prudence un pied après l'autre, bras croisés sur la poitrine, pour éviter de faire bouger davantage le pont. Les lanternes espacées doublaient, triplaient son ombre et lui rappelaient les visions floues provoquées par sa blessure. Elle avait la nausée. Elle entendit claquer des pas fougueux et celle d'un arriva en trombe à sa hauteur. Elle se laissa tomber sur les genoux et les mains, s'agrippa aux planches du pont.
« Qu'est-ce que tu fais ? »
demanda-t-il.
« Viens, Malta, dépêche-toi, sinon on n'y sera jamais.
Il n'y a plus que 3 ponts et un court trajet en chariot.
« En chariot ?»
répéta-t-elle faiblement.
« Tu t'assois dans une petite caisse et tu te propulses en tirant sur une sorte de courroie. C'est amusant, on peut aller drôlement vite. »«
On peut aller drôlement doucement aussi ?»«
Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. » »«
On va essayer ce soir, »
dit-elle fermement. Elle prit une inspiration tremblante et se remit sur pied.
« Seldon, je ne suis pas encore habituée aux ponts. Est-ce que tu pourrais ralentir et éviter de les faire bouger comme ça ?»«
Pourquoi ?»«
Pour que ta sœur ne te casse pas la figure, »
riposta-t-elle.
« Tu dis ça pour rire. D'ailleurs, tu ne m'attraperas jamais. Là, prends ma main et n'y pense pas tant. Viens !»
La main de Seldon était sale et moite. Elle s'y cramponna et le suivit, le cœur sur le bord des lèvres.
Et d'abord, pourquoi tu veux aller à la cité ?
Je suis curieuse. J'aimerais la voir.
Pourquoi Rain ne t'y a pas emmené ?
Il n'avait pas le temps aujourd'hui.
Et il ne pouvait pas t'y amener demain ?
On ne pourrait pas marcher sans parler.
Si tu veux.
Il garda le silence, le temps de 3 respirations.
Tu ne veux pas qu'il sache que tu y vas, c'est ça ?
Malta se hâtait, tâchant d'oublier le balancement nauséeux du pont. À le voir, Seldon avait pris le pli. Elle avait l'impression que si elle trébuchait, elle passerait par-dessus bord.
« Seldon, »
demanda-t-elle à mi-voix,
« tu veux que maman soit au courant pour les bateaux ?»
Il ne répondit pas. Inutile d'officialiser le chantage. Pire que les ponts, ce fut le trajet en chariot. La caisse était en fait une manne en osier. Seldon y monta pour la manœuvrer alors qu'elle s'asseyait au fond en se demandant si le chariot n'allait pas céder d'une minute à l'autre. Elle agrippa le rebord de la manne et essaya de ne pas penser à ce qui se passerait si la corde se rompait. Le chariot termina sa course dans les branches d'un grand arbre. Une passerelle descendait au sol en tournant autour du tronc. Lorsqu'ils atteignirent la terre ferme, elle avait les jambes flageolantes d'appréhension et aussi de faiblesse, car elle n'était plus habituée à se donner du mouvement. Elle scruta l'obscurité autour d'elle, ahurie.
« C'est ça, la cité ?»«
Pas vraiment. La plupart de ces bâtiments sont des ateliers. On est au-dessus de l'ancienne cité. Viens, suis-moi, je vais te montrer une des entrées. »
Les constructions en bois étaient serrées les unes contre les autres. Seldon la guida à travers un véritable labyrinthe. Une fois, ils traversèrent une rue plus large, éclairée de torches. Elle conclut qu'il existait sans doute des moyens plus prosaïques de se rendre à la cité ensevelie. Ils étaient venus par le chemin qu'empruntaient les enfants. Seldon se retourna vers elle. Elle surprit l'étincelle de surexcitation qui brillait dans ses yeux. Ils arrivèrent enfin devant une porte massive en rondin, ménagée dans le sol, comme l'ouverture d'une trappe.
« Aide-moi »
siffla-t-il. Elle secoua la tête.
C'est fermé par des chaînes.
Pas pour de vrai. Les grandes personnes n'entrent plus par là parce qu'une partie du tunnel s'est effondrée. Mais on a la place de passer si on n'est pas trop gros, comme nous.
Elle s'accroupit à côté de lui. La porte était couverte d'une moisissure grasse qui s'insinua sous ses ongles. Une fois ouverte, elle révéla un carré de nuit très noir. Sans grand espoir, Malta demanda:
« Il y a des torches en bas ou des chandelles ?»«
Non, on n'en a pas besoin. Je vais te montrer, il suffit de toucher ce truc, là, et ça s'allume un peu, mais seulement quand tu y touches. »«
Ce n'est pas beaucoup, mais on y voit assez pour marcher. »
Il descendit dans le noir. Un instant plus tard, elle aperçut une vague clarté autour des doigts de son frère, dont l'ombre se découpait sur le mur.
« Viens, dépêche-toi !»
Il n'avait pas dit de refermer la porte, et c'était tant mieux. Elle descendit à tâtons dans l'obscurité. Cela sentait l'humidité et l'eau croupie. Qu'était-elle en train de faire ? À quoi pensait-elle ? Elle grinça des dents et posa la main à côté de celle de Seldon. Le résultat fut stupéfiant. Une bande de lumière jaillit de sous ses doigts qui courait le long du tunnel devant eux avant de disparaître dans un coude, encadrait les portes. Par endroits, des runes y brillaient. Elle resta clouée sur place, interdite. Seldon garda un moment le silence. Puis, il demanda avec hésitation:
« Rain t'a montré comment faire, non ?
Non. Je n'ai fait que toucher le mur. C'est de la jitzine.
Elle pencha la tête sur le côté. Des accords de musique lui parvenaient aux oreilles depuis le fond du corridor. Étrange. Elle ne pouvait identifier les instruments, mais les sons lui étaient curieusement familiers. Selden écarquillait les yeux.
Vili m'a dit que Rain arrivait à faire ça des fois. Je n'ai pas cru.
Ça ne marche peut-être pas tout le temps.
Peut-être,
concéda-t-il d'un air sceptique.
C'est quoi cette mélodie? Tu la connais?
Il fronça les sourcils.
Quelle mélodie? Cette musique, très loin, tu n'entends pas?
Le silence se prolongea un long moment.
Non, je n'entends que des gouttes tomber.
On continue?
Bien sûr,
répondit-il, hésitant. Il marchait plus lentement maintenant, traînant les doigts le long de la bande de jitzine. Elle le suivait en l'imitant.
Où voulais-tu aller?
Lui demanda-t-il au bout d'une minute.
Je veux aller là où le dragon est enterré. Tu sais où c'est?
Il se retourna et la regarda en plissant le front.
Un dragon enterré? C'est ce que j'ai entendu dire. Tu sais où c'est? Non.
Il se gratta la joue de ses doigts sales qui laissèrent des traînées brunes.
Je n'en ai jamais entendu parler.
Il regarda ses pieds.
En fait, je ne suis pas allé beaucoup plus loin que la partie éboulée. Alors amène-moi là-bas.
Ils cheminaient en silence à présent. Ils passèrent devant quelques portes enfoncées. Malta y jeta un œil plein d'espoir. La plupart ouvraient sur des pièces effondrées, envahies de terre et de racines. Deux avaient été dégagées, mais ne contenaient rien d'intéressant. Des fenêtres de verre épais donnaient sur des murailles de terre. Ils poursuivirent leur chemin. Elle entendait la musique tantôt distinctement, tantôt plus vaguement. Une illusion créée par les galeries, décida-t-elle. Ils parvinrent à un endroit où le plafond et un mur s'étaient écroulés. La terre avait dévalé jusqu'au sol dallé. De sa main libre, Selden montra le tas de débris qui s'élevait jusqu'au plafond. Il chuchota.
« Il va falloir grimper jusque là-haut et se faufiler à travers. Vili dit que c'est étroit sur une petite distance et qu'après tu ressors. »
Elle leva les yeux d'un air de doute.
« Tu es arrivé à passer ?»
Selden baissa la tête.
« Je n'aime pas les endroits étroits. Je n'aime pas vraiment être là d'ailleurs. Les ponts et les chariots, c'est plus amusant. La dernière fois qu'on était ici, il y a eu un tremblement de terre. Vili et les autres, on a couru comme des lapins pour sortir. »
Il paraissait humilié d'avoir à le reconnaître.
« J'aurais couru aussi, »
affirma-t-elle.
« Retournons maintenant. Je vais aller un peu plus loin, juste pour voir. Tu veux bien m'attendre ici ?»«
Je suppose, oui.
Tu peux m'attendre près de la porte si tu veux. Tu surveilles, d'accord ?»«
Oui. Tu sais, Malta, si on se fait attraper ici tout seul comme ça, eh bien, on trouvera peut-être ça un peu indiscret. Quand Willy m'amène ici, ce n'est pas la même chose. C'est comme si on espionnait nos hôtes. »
« Je sais ce que je fais, » affirma-t-elle. « Je n'en ai pas pour longtemps. »«
J'espère, »
murmura-t-il alors qu'elle le quittait. Au début, ce ne fut pas trop pénible. Elle pataugeait dans la terre humide, gardant la main sur la bande de lumière. Bientôt, elle dut s'accroupir. Puis, la jitzine disparut sous les débris. À contre-cœur, elle retira les doigts. La lumière s'affaiblit derrière elle. Elle serra les dents et avança en tâtonnant à quatre pattes. Elle s'entortillait dans ses jupes jusqu'à ce qu'elle ait compris comment s'y prendre. Quand elle se cogna la tête au plafond, elle s'arrêta. Elle avait froid aux mains. Le tissu de sa robe était alourdi d'une épaisse couche de boue. Quelle explication pourrait-elle fournir? Elle chassa le souci de sa tête. Trop tard de toute façon. Un peu plus loin, se dit-elle. Elle s'accroupit davantage et se mit à ramper. Bientôt, elle progressa sur les coudes et les genoux. Elle ne percevait que le bruit de sa propre respiration et des gouttes d'eau qui tombaient au loin. Elle fit halte pour reprendre haleine. L'obscurité opprimait ses yeux. Il lui sembla soudain que la colline au-dessus pesait de tout son poids sur elle. C'était ridicule. Elle allait rebrousser chemin. Elle essaya de reculer. Sa jupe remonta jusqu'à la taille, ses genoux étaient en contact avec la terre froide. Elle avait l'impression de se vautrer dans la boue. Elle s'arrêta.
« Selden ?»
Il n'y eut pas de réponse. Il était probablement retourné à la porte dès qu'elle avait été hors de vue. Elle posa la tête sur ses bras et ferma les yeux, saisie de vertige. Elle avait eu tort d'essayer. C'était complètement stupide. Qu'est-ce qui avait pu lui faire croire qu'elle réussirait là où Rain avait échoué ?